au recueillement et au silence. Que la paix de Dieu soit avec chacun de nous. Que son amour vienne habiter en nos cœurs. Bienvenue à vous tous, amis d'ici ou d'ailleurs. Quel que soit votre chemin de vie, votre chemin de foi, votre spiritualité, et même si vous dites que vous n'en avez pas, vous êtes ici bienvenus et vous êtes accueillis dans la joie et dans la paix. Quand Dieu envoie son souffle, nous vivons vraiment. Les choses nouvelles deviennent possibles, aujourd'hui même, ici et pour chacun de nous. Ces choses nouvelles sont portées par l'Esprit, jusque dans nos cœurs, jusque dans nos mains et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous invite à entrer dans la prière.
Il nous faut ton souffle, Seigneur, pour résister aux tentations d'abandon, d'indifférence et de chercher refuge dans le passé.
Il nous faut ton souffle pour attiser notre espérance quand la fidélité s'use et quand le monde semble devenir insensé.
Il nous faut ton souffle, Seigneur, pour inventer à l'Église un visage lumineux d'accueil et de tendresse.
Il nous faut ton souffle pour annoncer l'Évangile avec des mots qui ont déjà tant parlé et surtout avec nos présences.
Viens, Seigneur, pour vivre et pour créer, pour aimer et pour protester. Il nous faut ton souffle dans l'esprit et dans le cœur. Amen.
Et je vous invite à vous lever pour chanter au premier des cantiques qui ont été choisis par les quatre confirmants de ce jour, comme plusieurs textes de la liturgie. C'est le cantique 31-32, c'est page 346. Page 346, ils ont marché au pas des siècles.
Amis, qui sommes-nous pour venir prier et écouter aujourd'hui ? Un Dieu qui regarde de haut ? Un Dieu qui établit des commandements impossibles à observer ? Un Dieu inaccessible et lointain ? Allons donc, celui que nous rencontrons aujourd'hui est un Dieu de proximité.
Il est au milieu de nous, mais nous ne le voyons pas, car sa discrétion est semblable à la brise de montagne. Il est aussi proche que nous que le souffle de notre respiration. C'est un Seigneur d'amour éternel. Il donne à profusion tout ce qui est en lui, la vie et la tendresse.
C'est un Dieu de liberté qui lutte avec nous contre toutes les oppressions. Un Dieu de vent et de lumière qui nous confie son œuvre et nous inspire dans nos choix. C'est un Dieu de relation qui nous appelle à parler et à nous offrir aux autres. Un Dieu qui s'émerveille de nos présences et nous emporte dans son élan d'avenir. Et ce qu'il dit à chacun, ici-bas, fait lever un grand vent d'espoir et de création.
Nous prions encore.
Lorsque je traverse une période très difficile, lorsque tout paraît sombre autour de moi, quand je ne sais plus si les choses pourront encore s'arranger, alors je pense à Dieu, car l'Esprit de Dieu ne nous rend pas timides.
Au contraire, il nous remplit de force.
Quand d'autres personnes me vont sur les nerfs, quand je voudrais leur jouer de mauvais tours, quand je deviens impatient et agressif, alors je pense à Dieu, car l'Esprit de Dieu ne nous rend pas timides.
Au contraire, il nous remplit de force et d'amour.
Lorsque je suis tenté de riposter vertement, quand je sens que je perds la tête, quand je suis entouré de gens qui font pression sur moi pour que j'agisse sans réfléchir, alors je pense à Dieu. L'Esprit de Dieu ne nous rend pas timides.
Au contraire, il nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Amen. Amen.
Je vous invite à vous lever, nous allons confesser la foi de l'Église.
Je crois en Dieu, le Père. Il veut partager son esprit d'amour avec tous les humains. Il veut que, sur cette terre, nous connaissions le bonheur.
Je crois en Jésus-Christ, le Fils. Il est venu nous libérer de nos pleurs et de nos oppressions et nous associer à son œuvre.
Je crois en l'Esprit Saint, lumière et force des croyants, et fait de nous des artisans et des témoins des merveilles de Dieu.
Je crois que l'Église est appelée à vivre une conversion permanente dans la confiance, la justice et la paix. C'est ainsi qu'elle réalisera sa mission dans le monde. Amen.
Amen. Et nous chanterons au cantique 52-19 qui est à la page 860, Une flamme en moi, page 860. Il y a deux mots très importants dans la vie. Le mot « oui » et le mot « non ». Et il paraît qu'on commence par dire « non ». Oui et non sont deux mots de présence et de liberté. Es-tu là ? Oui ou non ? Veux-tu ? Oui ou non ? Les témoins de la foi confessent que Dieu dit oui. Un grand oui, sans condition et sans restriction à chacun de nous. Ce oui a été prononcé sur Jolan. Il dort. Ce oui a été prononcé sur Ambroise, sur Robert, sur Tillman, sur Thibault. Ce oui a été entendu par les parents de Jolan et par les quatre garçons. Ils peuvent ainsi aujourd'hui, par leur présence et librement, répondre chacun à leur manière. Oui, oui à la vie, oui à la vie de Jolan, oui à la vie de chacun d'eux, à leur vie. Ils seront ainsi appelés chacun à dire également non. Non avec Dieu, non à tout ce qui détruit, abîme, altère la vie des vivants sur la terre. Mais aujourd'hui, c'est le jour du oui, le oui de Dieu, le oui à Dieu, un joyeux échange de oui que la Bible nomme alliance. Alliance offerte par Dieu, signifiée par le baptême que Jolan va recevoir. Et aujourd'hui, l'Église est dans la joie, puisqu'elle obéit ainsi à la volonté de Jésus-Christ, qui a dit à ses disciples « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder ce que je vous ai enseigné. » À cette même alliance qui a été proclamée sur eux et pour eux le jour de leur baptême il y a quelques années, Ambroise, Robert, Tillman et Thibault vont également apporter leur réponse personnelle. Je vous invite maintenant à dire devant l'Église, devant Dieu, devant tous, les engagements que vous prenez vis-à-vis de votre petit garçon.
Dans le cadre du baptême de Jolan, nous avons choisi deux versets. Jérémie 6, verset 16 et Proverbe 25, verset 15. Arrêtez-vous un instant sur la route où vous marchez. Regardez et informez-vous des expériences du passé. Cherchez le bon chemin, suivez-le et vous vivrez tranquille. Des paroles douces viennent à bout des résistances les plus solides. Jolan, devant tous ces témoins de l'amour de Dieu pour toi, je m'engage à te fournir avec joie tout l'amour dont tu auras besoin, voire plus si tu l'acceptes. À accueillir avec bienveillance toutes tes joies, tes expériences, découvertes et bêtises dont tu seras capable, même si ce n'est pas toujours facile. À te soutenir dans les moments difficiles, de manière à t'aider à surmonter les obstacles que tu rencontreras dans ta vie. À t'apprendre des valeurs importantes pour nous, telles que le respect pour autrui, quel qu'il soit, et la solidarité. À te faire découvrir ton autre famille, ta famille spirituelle dont vous faites tous partie ici. À te faire connaître ma foi et te parler de ton baptême. Enfin, à t'aider pour trouver ta voie sans jamais t'en imposer une.
Jolan, par ce baptême, je te présente au monde et je m'engage. Il a 1 an, aujourd'hui. C'est pas rien. Je m'engage à te le présenter avec patience et amour. Je me ferai un honneur de t'y guider, de t'aider à le comprendre et à l'aimer. Puisses-tu y trouver la sérénité et le bonheur avec simplicité auprès de ta famille et de tes amis.
Ambroise, Robert, Tillman et Thibault vont maintenant exprimer devant vous quelque chose de leur foi. Ils ont pour cela choisi un texte biblique. Vous allez être surpris. Et à la suite de la lecture de ce texte, un chacun, eh bien, ils vont avoir leur propre expression. Je les invite à venir tous les quatre. Ici, j'invite également Francine, catéchète de la paroisse, qui les a connus, qui les connaît depuis qu'ils sont petits, certains tout petits. Et c'est Robert qui commence.
Donc, dans le livre de Job, chapitre 28, il y a bien un endroit pour extraire l'argent et un lieu pour affiner l'or. Le fer est tiré de la poussière et la pierre fondue par le bronze, produit du bronze. On met fin aux ténèbres, on explore, jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. On creuse un ravin loin des lieux habités, le pied ne leur vient plus en aide, ils sont suspendus, balancés loin des hommes. La terre d'où provient le pain est, dans ses profondeurs, retournée par un feu. L'homme porte sa main sur le granit. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers. Et son œil voit tout ce qui est précieux. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est donc le lieu de l'intelligence? L'homme n'en connaît pas le prix. Elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas en moi. La mer dit, elle n'est pas chez moi. On ne peut l'obtenir contre de l'or pur, ni l'acheter pour un poids d'argent. Mais la sagesse, d'où vient-elle? Mais où est donc le lieu de l'intelligence? C'est Dieu qui en comprend le chemin. C'est lui qui en connaît le lieu. Puis Dieu dit à l'humain, la crainte du Seigneur, voilà la sagesse. S'écarter du mal, c'est là l'intelligence. J'ai choisi ce texte puisqu'il me fait réfléchir à ne pas tout le temps chercher dans le monde physique, mais aussi chercher dans le spirituel. Je l'aime bien car il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de comparaisons au monde d'autrefois. Mais elles sont toujours valables aujourd'hui parce que l'être humain impacte toujours sur la nature. Nous avons besoin des autres, mais une fois que nous savons ce que nous avons à faire, nous devrions essayer de plus faire tout seul et approfondir le sujet, puis de partager ses expériences. Vaut mieux aller de son chemin et apprendre avec ses erreurs. Dieu l'a dit, s'écarter du mal, c'est là l'intelligence. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait jamais de mal ou d'erreur, même si on ne le fait pas exprès, même si parfois on est entraîné par d'autres. Je veux que Dieu m'accompagne et m'aide dans l'apprentissage de la sagesse, comme il m'a déjà aidé à ce que je n'ai plus peur d'aller voir les gens et à créer des relations. Je veux qu'il me montre le bon chemin et que je m'y tienne un maximum de mon mieux.
Ambroise.
J'ai choisi le texte Actes 9, versets 3 à 10. Saul était en chemin, approchant de Damas, quand soudain, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ? Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire jusqu'à Damas. Il resta 3 jours sans voir, sans rien manger ni boire. J'ai choisi ce texte car il montre la résurrection d'un homme qui persécutait les chrétiens et qui fut accepté par Dieu malgré ses crimes, ses conditions, sans vengeance et sans rien en retour. Comme Saul et la résurrection, la confirmation transforme l'enfant en adulte au sein de l'Église, donne des responsabilités. Et la fin du catéchisme, mais aussi le début de la transmission de la théologie à d'autres. C'est donc pourquoi je veux continuer ma vie avec Dieu, ce Dieu qui accepte, qui pardonne, qui donne une seconde chance. Marcher avec Dieu, c'est marcher bien accompagné sur un chemin sans impasse.
Ambroise, le Seigneur te bénit. Il te connaît par ton nom. Il t'aime. Il te fait confiance. Il veut pour toi la vie. Il Il sera pour toi lumière et paix. Il les a déjà semés en toi, dans ton cœur, pour que ta vie les reflète auprès de tous ceux que tu rencontreras. Le Seigneur te bénit. Amen. Thibaut.
Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors, une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria : Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent : Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui et dit : Seigneur, secours-moi. Il répondit : Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit : Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Au début, Jésus ne l'écoutait même pas, refusant d'aider une étrangère, la rabaissant au statut d'un petit chien parasite. Alors que beaucoup de gens se seraient fâchés, que beaucoup de gens auraient trouvé que Jésus dépasse ses limites, la femme, elle, accepte son statut. Elle se sert même de ce que dit Jésus pour se décrire. Jésus voit alors que la foi de la cananéenne est grande. J'ai choisi ce texte car il nous encourage à aider les personnes dans le besoin. Certaines personnes pensent que quelqu'un qui vient d'un autre pays vient parasiter et n'est pas digne d'être aidé. Jésus, dans ce texte, nous montre que certes, il avait des réticences au début, mais au final, il l'aide, car il voit la foi de la femme. Je trouve ce geste très sympathique et je pense que chacun peut se servir de ce texte pour aider les gens dans le besoin. C'est un exemple de Jésus que je suivrai si je rencontre des personnes dans des difficultés afin de les aider pour qu'ils retrouvent du bonheur dans leur vie.
Fidèlement, jour après jour. Par son amour et par sa confiance, il éclaire ta route, il assure ton pas, il te procure du repos. Marche en sa présence, dans le vent de l'esprit. Amen.
Maintenant, j'en appelle à toi, car tu es un Dieu qui répond. Tends vers moi une oreille attentive. Écoute ce que je dis. Montre-moi ta montée merveilleuse. Toi qui sauves de leurs agresseurs ceux qui cherchent refuge près de toi, garde-moi comme la prunelle de ton œil. Cache-moi, protège-moi sous tes ailes. Cet extrait m'a marqué profondément, car il est question d'un Dieu qui répond : Il me protège car je suis précieux à ses yeux. Et il me répond car il est près de moi. Il me console dans les moments difficiles. Il me réconforte car je sais qu'il m'écoute. Il me libère de mes malheurs. Ces versets me donnent du courage. J'espère que l'amour que Dieu me porte m'aidera à trouver les clés de la vie. Je crois en un bon avenir, comme je crois au Seigneur.
Tillman, Dieu te bénit. Tu es son enfant bien-aimé. Il te fait confiance chaque jour, afin que tu vives, toi et avec d'autres. Ton amour t'éclaire pour faire de toi un être de lumière pour tous. Que ton cœur se repose en son amour, il est sûr. Amen. Ensemble, nous prions. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier. Merci pour Jolan et sa vie toute neuve, pour ses parents attentifs, pour le bonheur et pour l'amour qu'il apporte et qu'il reçoit. Merci pour ces années de catéchisme qu'ont parcouru Robert, Ambroise, Thibault et Tillman. Merci pour les découvertes, pour les questions, pour les partages, pour leur fidélité. À chacun d'eux, nous souhaitons une vie remplie de joie et de paix. Seigneur, tu nous apprends à te connaître et à nous connaître. Tu laisses chacun chercher son propre chemin et tu l'ouvres toujours devant lui. Merci parce que tu es là, au cœur de nos vies, même si nous ne pensons pas toujours à toi. Merci pour cet amour lorsque nous sommes avec celles et ceux que nous aimons, et pour les jours de fête, et aussi pour les jours plus ordinaires. Tu nous y donnes rendez-vous, toujours et partout, et tu viens y faire route avec nous. Merci Seigneur. Amen. Nous avons quelque chose pour vous. De la part de l'Église, de cette paroisse qui vous a vu grandir et qui espère qu'elle continuera à vous voir grandir et à vivre avec vous des jours heureux, des jours de travail, des jours simples. Chaque jour, autant que vous voudrez, nous serons là pour vous et avec vous. C'est un petit souvenir, une petite bande dessinée qui vous raconte comment Dieu peut se servir des uns et des autres pour arranger des difficultés. Ce qui est rigolo dans cette BD, c'est que ces uns et ces autres, eh bien, c'est... voyons, si je me souviens bien, Léonard de Vinci, Albert Einstein, Marilyn Monroe... et d'autres encore. Vous n'avez plus qu'à laisser Dieu se servir de vous. Et je vous invite à vous lever, nous allons chanter au cantique 2208, page 264, comme un souffle fragile, page 264. Prenez place. Nous prions. Seigneur, par l'Esprit qui fait naître la foi et nous rassemble dans l'Église du Christ, nous t'en prions, ouvre nos esprits, afin que ta parole vienne élargir nos existences dans ta bénédiction. Amen. Les trois textes qui sont proposés à la méditation en ce jour de Pentecôte pour les églises, ces trois textes indiquent un aspect remarquable de cette fête. Pentecôte, c'est la fête du don de l'Esprit aux croyants. Ce quelque chose de remarquable, c'est comme un débordement, un supplément, un excès de dynamisme, un élan irrésistible, une vitalité parfois un peu débordante, agitée. Peut-être que Carole et Alain font une expérience analogue depuis la venue au monde de Jolan qui a bouleversé leur quotidien, mais qui les a conduits à devenir plus que ce qu'ils étaient auparavant. Ils sont devenus des parents, aimants et responsables d'une vie nouvelle, pleine d'énergie. Et ils auront besoin encore de souffle pour aider, guider et accompagner cette vie. Ambroise, Robert, Thibault et Tillman ont fait quant à eux un cheminement qui les a menés dans un face-à-face avec un texte biblique et puis dans une réflexion intérieure pour envisager leur vie à venir et enfin venir s'exprimer devant vous. Ils ont eu besoin d'une inspiration pour dire ce qu'ils ont dit. Et ils auront encore besoin d'inspiration pour poursuivre, pour avancer chacun sur leur chemin de vie. Pentecôte, c'est le don du souffle de Dieu pour inspirer, respirer plus largement, pour aller au-delà et autrement du seul donné des circonstances, même quand elles sont heureuses. Un souffle qui nous fait déborder de nos mesures, qui nous entraîne au-delà de nos habitudes et de nos réactions. Et c'est ainsi que nous lirons dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12. C'est Thibault.
Personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en nous, en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à une autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre des dons de guérison, par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues, mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit.
Paul parle des dons de l'Esprit. Et les dons de l'Esprit que chacun peut recevoir, c'est toujours au bénéfice d'un autre que celui qui les a reçus. Et Paul ainsi peut évoquer ce corps formé par les croyants qui sont autant de parties de ce corps unique qui est l'Église du Christ. Avec les dons de l'esprit, ce n'est pas chacun pour soi, c'est chacun avec les autres et pour les autres. Ce corps, nous le manifesterons tout à l'heure, en formant un cercle, en partageant le pain et le vin. Parce que le mot « corps » dit bien qu'il est question dans la foi et dans l'esprit, et dans l'Église, de vie, de chair et de sang, de souffle et de parole, de nourriture et d'eau, l'eau du baptême, l'eau de la parole, l'eau de la terre, celle qui tombe du ciel, l'eau qu'on boit. Ainsi, Pentecôte s'est allée hors du tête-à-tête avec soi-même, pour rejoindre d'autres croyants. Et même lorsqu'on n'est pas physiquement ensemble, tout le reste de la semaine, se sentir membre de ce corps et porté par ce corps réel et vivre en faisant bénéficier autrui des dons qu'on a reçus. Que ce soit la foi, qui est un don de l'esprit, cette confiance en un Dieu pour la vie, ou que ce soit l'amour, le plus grand des dons et le seul indispensable, écrit Paul au chapitre suivant, 1 Corinthiens 13. Pentecôte, c'est l'élan qui entraîne hors de soi-même, hors du pour soi, vers un partage, vers une solidarité, vers une communion. Le livre des Actes en parle différemment. Et c'est Ambroise et Tillman qui vont venir nous lire ce texte. Au chapitre 2 du livre des Actes.
Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu, et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux, ils furent tous remplis de l'Esprit-Saint, et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel, habitaient Jérusalem.
Étonné, stupéfait, il disait. Au bruit se produisit la multitude accourue et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonné, stupéfait, il disait. Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entendent dans sa langue maternelle. Parthe, Médès, Élamite, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye Cyrénaïque, citoyens romains, juifs, prosélytes, crétois, arabes, nous les entendrons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient d'eux en disant, « Ils sont pleins de vin doux. »
Les disciples qui sont rassemblés dans un même lieu sont poussés vers l'extérieur, hors de l'entre-soi de leur communauté. Ils sont poussés hors de leur langue pour parler d'autres langues. Celle de tous les peuples présents. Ils sont poussés pour aller parler à d'autres, à tous, des merveilles de Dieu. C'est tellement débordant que certains croient qu'ils ont bu trop de vin. La communauté des disciples est entraînée hors d'elle-même, exposée devant tous, et même exposée à l'incompréhension et aux moqueries. Pentecôte, c'est de ne pas pouvoir garder pour soi, ni entre soi, ce qui fait vivre, ce qui donne saveur et couleur à l'existence, la signification du fait d'être vivant sur terre. c'est devenir témoin pour d'autres à partir de sa propre expérience, expérience d'une flamme intérieure, source d'énergie et d'espérance, expérience d'un courant d'air qui balaye les distinctions et les étiquettes communément admises. Pentecôte, c'est le souffle qui fait parler du sens particulier de la liberté, de l'amour et de la confiance tels que Jésus de Nazareth les a incarnés, en ne faisant toujours que du bien. Merveille. Et dans l'évangile de Jean, cela se passe encore autrement. Robert.
Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Jésus. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés, et à qui vous les retiendrez, ils sont retenus. »
Pentecôte, c'est le surgissement d'une présence inattendue, au milieu de la peur qui enferme, au milieu du découragement qui isole, au milieu du sentiment d'être abandonné ou d'être en échec, ce sentiment qui fait se replier sur soi. Cette présence porte la paix, malgré la peur, contre la peur. Cette présence relève de l'effondrement que provoque la peur. Et le Christ envoie ses disciples dans le monde, dans la vie, avec l'esprit, avec une mission qui en fait est semblable à la sienne. Pardonner, remettre les péchés. C'est ce que le Christ a accompli. Les évangiles en témoignent. C'est ce qu'il a accompli en libérant, en guérissant, en relevant, en ressuscitant, en restaurant les personnes qu'il rencontrait. Et les disciples sont envoyés faire pareil. Nous, vous quatre, nous tous. Et nous l'espérons aussi, Jolan, quand il aura un peu grandi. C'est saisissant, cette mission. C'est bouleversant, mais c'est aussi enthousiasmant, cette confiance que le Christ nous fait de continuer à faire ce que lui a fait. Il nous fait confiance, et c'est bien ainsi, parce que quelqu'un nous fait confiance, qu'on peut aller au-delà de ce qu'on croit être, au-delà de ce que les autres croient qu'on est, au-delà de nos réactions, au-delà de nos habitudes. Tous les quatre, vous avez témoigné devant nous tous qu'il y a dans votre vie une étincelle de lumière, un germe, un élan que vous avez reconnu et que vous pouvez maintenant entretenir. Certainement, vous connaîtrez des échecs. Certainement, tous les quatre, vous ferez des erreurs dans votre vie. Vous raterez de belles occasions et de bonnes rencontres. Vous manquerez à vous-même et à d'autres, comme chacun de nous ici. Et cela arrivera aussi à Jolan. Et c'est cela que la Bible appelle le péché. Mais si tout s'accumulait au fil des jours, personne ne pourrait y résister à ces échecs, à ces erreurs, à ces ratages. Nous succomberions vite sous le poids. Mais Dieu ne veut pas cela pour personne. Et le Christ est venu pour nous sauver de cet écrasement en révélant que Dieu est grâce, que Dieu est pardon, que Dieu est don et vie. La mission que le Christ donne à ses disciples, à vous, à nous tous. Ce n'est pas de devenir des juges des autres. Toi, tu es pardonné, toi, non. Ce n'est pas un pouvoir que Jésus nous donne. Il nous engage à une responsabilité. C'est de faire tout ce que nous pouvons pour aider les autres à sortir de leurs enfermements dans la peur, dans la culpabilité, dans l'échec. C'est de les aider à ne pas rester bloqués dans leur passé, dans leur passif, pour les aider à devenir libres, légers, vivants. La résurrection, la deuxième chance dont tu as parlé, Ambroise. L'ouverture accueillante et bienveillante à l'autre qui t'a marqué, Thibaut. L'amour de Dieu que tu as appelé, Tillman. Le chemin de sagesse et de vie que tu désires, Robert. Ce sont autant de manières de parler de la grâce, du pardon et du don dont Jésus nous exhorte à devenir les témoins dans toute notre vie. Et Carole et Alain, vous avez eu bien raison d'invoquer la patience, pas seulement envers Jolan, car nous n'arrivons pas toujours à aider les autres, à les aider à être libérés, à être soulagés, à être allégés, à être consolés, à être restaurés. Nous n'y arrivons pas toujours. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner la mission. Car jamais Jésus, lui, n'a retenu les péchés de qui que ce soit. Jamais il n'a barré la route de l'avenir et de la vie à qui que ce soit. Et nous avons, oui, besoin de patience pour continuer à cheminer avec les autres. La patience de l'amour qui, parfois, est impuissant. Mais si nous, nous sommes limités, Dieu est bien plus grand que nous. L'esprit que Jésus souffle sur les disciples, il est appelé aussi dans l'évangile de Jean l'avocat, le consolateur, qui ne fait que du bien. Il est puissance vivifiante en nous. De tout le bien que Dieu a fait pour nous, de tout le bien que Dieu veut pour nous. Puissiez-vous tous les quatre, et puissions-nous tous, nous laisser emporter par cet élan, avec la paix et la joie que Dieu nous donne en abondance. Amen. Nous nous levons pour chanter au cantique 5305, page 866. Page 866, marche en ma présence, nous chanterons les strophes 1 et 2.
Vraiment, il est juste et bon, ô notre Dieu, de laisser ta grâce descendre en nous pour qu'elle remonte vers toi en action de grâce par Jésus le Christ, notre frère. Quand il passait sur nos chemins, un élan le portait qui l'a conduit jusqu'au bout de l'amour. Aujourd'hui, ce même élan soulève le groupe de ses amis. Ainsi fallait-il que le Fils soit glorifié pour que le souffle de vie largement se répande sur les disciples et parmi les humains. Oui, le Christ est ressuscité dans la puissance de l'Esprit Saint et son corps, l'Église, devient un temple où l'Esprit déploie sa puissance. Voilà pourquoi nos voix s'unissent, nous chantons des dons vivifiants.
Et nous chantons les strophes 3 et 4 du cantique 5305, page 866.
Thank you.
l'Esprit de Dieu était présent et agissant. Lorsque, au dernier soir avec ses disciples, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites cela en mémoire de moi chaque fois que vous en boirez. » Nous prions.
Seigneur, fais souffler en nous ton esprit de renouveau, afin que, mangeant ce pain et buvant ce vin, nous participions à ton corps et vivions de sa vie. Que ton esprit éveille en nous l'intense désir de vivre en union avec toi, afin de connaître la vraie liberté, cette liberté que tu mets au service de tous les humains.
Père, inspire-nous et inspire les disciples du Christ partout sur terre. Qu'ils découvrent de nouveaux chemins de joie et d'espérance, des chemins où chanteront les humains d'aujourd'hui et de demain. Affermis-nous dans cette inspiration, aux heures où la violence déborde et où la peur et la méfiance risquent de défigurer les humains. À Londres, en Syrie, au Yémen, dans bien d'autres lieux. Donne à tes fidèles une foi entreprenante. Donne-leur une audace surprenante dans l'amour, dans le service, dans l'engagement pour la justice et la paix. Donne-leur une patience et une persévérance résistante dans l'accompagnement des épreuves, dans les actes et les paroles de consolation, d'encouragement, de bénédiction et dans la prière. Et quand nous venons ranimer notre désir aux sources de la vie, répands le souffle vivifiant, l'Esprit de Jésus. Et alors nos visages reflèteront sa lumière et sa paix. Et c'est parce que l'Esprit a déjà soufflé en nous que nous pouvons te dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Le Christ vivant nous attend pour que nos vies s'évanouissent par lui. Oui, s'épanouissent par lui. Il vient nous donner part à sa vie, la vie éternelle. Venez, car tout est prêt.
Nous allons former un cercle autour du temple et s'il faut, quelques personnes pourront se mettre dans l'allée centrale. Le repas du Seigneur est ouvert à tous ceux qui reconnaissent à leur manière Jésus-Christ comme leur frère et comme leur sauveur. Mais venez tous dans le cercle. Si vous ne souhaitez pas communier, vous passez simplement le plat et la coupe à votre voisin. Venez. alliance. Jésus-Christ fait couler en nous son sang comme un vin nouveau, comme un vin de fête, pour que notre vie devienne sienne dans l'espérance et dans l'amour.